8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, le professeur Axel Kahn, généticien et président de la Ligue contre le cancer.
Bienvenue à vous et bonjour Axel Kahn.
Bonjour Sonia Mabrouk.
C'est un vrai faux suspense, usant et lassant, il faut le dire, avant les annonces ce soir d'un probable reconfinement en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. On a l'impression, Axel Kahn, d'un retour à la case départ. Est-ce que c'est le cas ?
Je crois, mais je me suis décidé à ne plus commenter les retards d'origine uniquement politique de la prise des décisions qui s'imposent d'un point de vue sanitaire. Je suis le président de la Ligue contre le cancer, on en reparlera. L'épreuve subie par les personnes malades qui ont des maladies chroniques graves du fait de la surcharge hospitalière, de l'importance des foyers hospitaliers, ce sont des épreuves terribles, qui laisseront des séquelles, qui laisseront des gens au tapis, et j'ai assez à faire, quelle que soit la décision des politiques, pour aider les personnes concernées du mieux que je le peux. Cela dit, si je faisais une analyse, on va dire, de la gestion politique de la crise sanitaire, alors je n'entrerais pas dans le détail. Cette analyse serait très sévère.
On a compris, donc votre avis, le bénéfice sanitaire du reconfinement, Axel Kahn, à venir, est-il plus important que le coût social, le coût économique, le coût psychologique, le coût psychiatrique que l'on va payer ?
Aujourd'hui, le confinement est très difficile. Il est très difficile parce qu'on rentre dans la période de printemps. Être confiné au printemps, c'est pas exactement la même chose qu'être confiné en hiver quand il fait extrêmement mauvais, même s'il fait pas vraiment beau maintenant. D'autre part, comme on part d'un taux de circulation virale extrêmement élevé, on va être obligé de confiner pendant plus longtemps. Comme le taux de circulation est extrêmement élevé, la tension hospitalière est maximale absolument partout. Les perspectives s'éloignent. Et donc, ce reconfinement aujourd'hui, on va dire à la dernière limite, le couteau sous la gorge, en dernière extrémité, est la pire des choses. Je vais vous dire...
La pire des choses ?
Oui, je crois. La pire des choses. On ne peut
bien
pas
sûr,
faire autrement.
Bien sûr.
Mais c'était la pire des solutions. Je suis, moi, de tradition catholique, chrétienne, Pâques est relativement importante. Vous rendez-vous compte, Sonia Mabrouk, que parce que on ne s'est pas résolu à reconfiner un coup après Noël, à reconfiner un coup avec les gamins en vacances, en février, on va reconfiner au week-end de Pâques. Quand même. Vous voyez la belle affaire ?
Je n'ai pas besoin de vous poser la question, Axel Kahn, si le pari ou du moins la stratégie du président Macron, qui était celle de ne pas reconfiner, de tenir sur une ligne de crête, était une bonne stratégie. On vous a entendu clairement là.
Oui.
Pour vous, chaque jour a été un jour perdu et pas un jour gagné de nos reconfinements.
D'un point de vue politique, je comprends. Emmanuel Macron a voulu se présenter comme le sauveur des Français qui les protégeait de ce confinement, qui est une potion terriblement amère, dont ils sont totalement lassés. Et il s'est dit, il y a un créneau, comme il considère que maintenant il connaît tout de l'épidémiologie, je vais peut-être y parvenir, et si j'y parviens, banco. Alors le bénéfice en termes politiques, alors même que l'on est l'année précédente, l'année électorale, sera considérable. Maintenant le président, mais c'est de la politique, donc je ne m'en mêle pas, le président aura à gérer l'échec de ce pari. Alors il dit
l'échec,
maintenant,
c'est le mot, hein, il est lancé. Pour vous, c'est un échec.
Non, mais ça c'est un échec. Ça n'est pas une analyse. Je veux dire que la totalité des commentateurs doit constater que le président a fait un pari. D'ailleurs, il l'a reconnu. À un moment donné, il a dit le maître du temps, c'est le virus. Ça veut dire que contrairement à ce que j'avais espéré, je ne suis pas le maître du temps. Le maître du temps, c'est le virus. Alors là où la critique quand même, j'ai dit que je ne critiquerai pas, mais simplement une observation. Rien de ce qui se passe aujourd'hui, rien n'était imprévu. Rien. En réalité, depuis la fin du mois de décembre, même le milieu décembre, on est certain que le variant anglais va dominer sur toute l'Europe et notamment en France. Tout simplement parce qu'il est 1,6 à 1,7 fois plus infectieux. Et ça, c'est un mécanisme fondamental du vivant. On sait très bien qu'il y a il y avait un taux d'incidence très important à l'Est et à l'Ouest, qui, eux, ont confiné, ont pris vraiment des mesures extrêmement importantes. Et donc, on a pris le risque de ne pas baisser la circulation virale. Dans ces conditions-là, alors que l'on savait très bien qu'un variant beaucoup plus infectieux était certain de s'imposer. Donc, on ne va pas dire qu'on a été pris par surprise. J'ai entendu des discussions avec le Premier ministre qui indiquent qu'on ne pouvait pas prévoir une telle explosion des cas. Monsieur le Premier ministre, j'ai un infini respect, évidemment, pour votre fonction et la manière dont vous exercez le pouvoir. Mais ce que vous dites là est inexact. Non seulement on pouvait le prévoir, mais la plupart des spécialistes le prévoyaient. Et donc, la bonne stratégie était de continuer sur la lancée qui était la lancée du président Emmanuel Macron en octobre. C'est-à-dire qu'on fait tout pour essayer de diminuer la circulation virale. Et ensuite, lorsqu'elle est basse, on maintient. Un dernier point, regardez l'Allemagne qui, elle aussi, connaît un rebond. Mmh. Mais elle avait fait baisser sa circulation virale à 50 personnes contaminées par 100 000 habitants, le taux d'incidence. Ce n'est pas pareil d'augmenter quand on est à 50 et d'augmenter quand on est à 235. Ce n'est pas pareil.
Axel Kahn, peut-être que cette stratégie de non-confinement n'était valable qu'en cas d'accélération de la vaccination, parce que c'est évidemment essentiel. Et en plus, nous attendons le verdict sur AstraZeneca aujourd'hui. Très sincèrement, le destin et la réputation de ce vaccin sont-ils entamés ?
Écoutez, oui, sans doute. Je pense que l'Agence européenne du médicament va indiquer ce qui est vrai, ce qui est incontestable, que les bénéfices du vaccin l'emportent de loin sur les risques. Cela étant dit, il semble bien, en effet, que la particularité de ce vaccin entraîne, chez certaines personnes, des accidents un peu spécifiques, de très 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 basse fréquence. Ce que je n'ai pas compris du tout, c'est la frénésie qui a pris d'un seul coup.
Mais pourquoi ? Est-ce qu'on a manqué ? Est-ce que les médecins ou est-ce que certains scientifiques ont manqué de sang-froid ?
Oui, ils ont manqué de sang-froid. Ils ont manqué de sang-froid parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Un bon médicament et un bon vaccin, le vaccin AstraZeneca est un bon vaccin, est mis sur le marché et on commence à l'utiliser sur des millions de personnes. Dans ces cas-là, si vous voulez, se met en place un processus que l'on appelle la pharmacovigilance. C'est-à-dire que, en conditions réelles de traitement, on regarde si ce qu'on n'a pas pu voir sur des essais cliniques limités apparaît. Là, on voit, je rappelle quand même, en Allemagne par exemple, 6 personnes atteintes d'une complication thrombotique extrêmement grave et une coagulation intravasculaire, 6 femmes, 1 homme, 2 meurent en quelques jours, plus de cas qu'il y en a habituellement en un an. Et donc, en effet, il peut y avoir quelque chose. Donc, dans tous les cas, dans n'importe quel médicament, dans ces cas-là, la pharmacovigilance exige que on fasse une pause pour y regarder plus près, je vais vous dire.
Imaginez. Mais pourquoi alors la Grande-Bretagne ne l'a pas fait ? Ils vaccinent massivement avec cette AstraZeneca.
Alors la Grande-Bretagne, il y a plusieurs hypothèses, je n'en sais rien. Vous me demandez, je n'en sais rien. Il y a 2 hypothèses. La Grande-Bretagne a peut-être, on va dire, tenu à rester extrêmement discrète sur des effets très minoritaires, c'est vrai, en considérant qu'il y avait un tel avantage à vacciner qu'il fallait avant tout pousser la vaccination. L'autre possibilité, c'est que la caractéristique du vaccin AstraZeneca, c'est d'être un vaccin vivant. C'est un adénovirus de chimpanzé vivant dans lequel on a mis l'ADN qui code la protéine de spicule du coronavirus. C'est très difficile de standardiser totalement des lots d'un virus vivant, d'un vaccin vivant qui est produit en Corée, en Italie, en Belgique, en Grande-Bretagne, etc. Donc l'autre hypothèse, c'est qu'il s'agisse de lots différents et que certains lots entraînent plus particulièrement ces réactions inflammatoires. Je connais bien les vaccins, j'ai travaillé dans le domaine des vaccins. J'ai été directeur
pendant de nombreuses années, hein, en lien évidemment
absolument.
Avec les laboratoires dans ce domaine.
J'ai été directeur scientifique de Roche-Poulenc-Rorer alors qu'il y avait Mérieux Pasteur dans notre portefeuille. Quand j'ai vu la fréquence avec laquelle il y avait ces syndromes grippaux un peu cognés, bénins mais un peu cognés, chez les jeunes personnes, j'ai été étonné. Parce que je ne me rappelle pas avoir vu un vaccin donnant cela. Mais enfin, peu importe, il marche bien, c'est vrai qu'il marche tout à fait bien. Cela étant dit, il faut bien évidemment se demander pourquoi. Alors maintenant, est-ce que c'est dramatique ? Non, c'est pas dramatique.
Non, parce qu'il y a d'autres vaccins qui arrivent.
Parce qu'il y a tout plein d'autres vaccins qui vont arriver, qui sans doute posent moins de problèmes. Il faut vacciner, naturellement. Il ne faut pas que les gens Au contraire, si un vaccin pose un petit problème et qu'on est amené à prendre toutes les précautions. Voyez, si par hasard, ce vaccin entraînait des thromboses chez des jeunes femmes sous pilule, parce que la pilule, elle aussi, entraîne une hypercoagulation. Évidemment, la conséquence, c'est qu'il ne faudrait pas vacciner avec AstraZeneca des jeunes femmes sous pilule. Et donc, évidemment qu'il faut y regarder, que des collègues...
Ah, très bien. Donc l'Agence européenne du médicament, certainement tout à l'heure en donnant son aval, peut dire pour certaines catégories
absolument,
de population... Voilà,
absolument,
ça c'est important.
Elle peut le faire,
s'il
mais
y a...
on est dans le processus normal de la pharmacovigilance. Et certains de mes collègues qui sont excités tout plein, je ne comprends pas.
C'est à bon entendeur. Je voudrais qu'on conclue avec votre livre, Axel Kahn, intitulé « Et le bien dans tout ça ?» Parce qu'il y a une réflexion très importante dans ce livre autour de la mort, notre rapport à la mort. Mais c'est une réflexion finalement sur la vie, votre expérience. L'expérience de vie est très importante. Nous sommes loin aujourd'hui de reprendre une vie normale. S'il y avait un mot, un encouragement ce matin pour nos auditeurs et nous tous, quel serait-il ?
Ah, l'encouragement principal, c'est qu'il est sûr qu'on va continuer à vivre, il est sûr que l'on va continuer à pouvoir être heureux, il est sûr que l'on pourra continuer à aimer, éventuellement à faire des enfants et à construire différemment. Mais en effet, il y a des modifications qui seront importantes. Et ce qui est singulier dans cette pandémie, ce n'est pas tellement qu'elle soit sévère, oui, elle est sévère, mais tous les siècles, il y a des pandémies, il y en a toujours eu et il y en aura, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est que cette pandémie sévère, sérieuse, rencontre un état de la société, une fierté dans le développement, un refus total de l'acceptation de la mort, qui fait que la réaction sociétale du monde entier a créé ce que nous connaissons.
Et tout ça est à découvrir notamment dans votre livre « Et le bien dans tout ça » aux éditions Stock. Un peu de réflexion, de recul et une vue d'ensemble, ça fait du bien, vous aurez écouté plus longtemps. Merci Axel Kahn.
Merci beaucoup
Bonne
Sonia Mabrouk. Il est 8h28 sur Europe.